Bonjour Yves, micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition et qui vous apprendra ou qui vous rappellera que 24 notes secondes, une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent sur les grands écrans. Et ce jour dans 24 notes secondes, eh bien nous allons plonger dans l'Orient extrême ou quelque part à l'extrême de l'Orient puisque nous allons évoquer la Chine à travers quelques films très occidental, donc ce sera forcément un regard occidental sur la Chine et surtout, en tout cas je l'espère pour vous comme pour moi, eh bien l'occasion d'écouter quelques belles partitions concoctées par quelques beaux compositeurs, puisque hélas, en matière de compositeurs de musique de film, comme dans bien d'autres domaines, les filles, elles sont peu nombreuses. Et nous allons commencer par écouter un extrait de la bande originale d'un film tourné en 1969 par Jack Lee Thompson, un film qui mettait en vedette le grand, à tous les sens du terme, Gregory Peck, pour une histoire à brin abracadabrant où l'on voyait Gregory Peck envoyé en Chine pour récupérer une mystérieuse formule chimique auprès de son vieux maître. Et avant qu'il ne parte, eh bien, on a implanté à Gregory Peck une sorte de bombe dans son corps qui va exploser, si c'est possible, en présence de Mao Tse-tung. Et oui, puisque 1969, c'est peu ou prou, quelque part vers la révolution culturelle. Et quand je vous aurais dit qu'ensuite, eh bien, notre bel espion américain s'associe avec une belle espionne russe pour lutter contre le tout, vous aurez compris que le film est un méli-mélo idéologique un peu compliqué qu'on retiendra surtout comme un témoignage d'époque où l'on voit Mao dépassé par la révolution culturelle, ce qui n'est pas vraiment une nouveauté, mais surtout ce qu'on en retiendra, eh bien, c'est que c'est l'occasion pour le grand Jerry Goldsmith, dont les amateurs de 24 notes secondes savent qu'il est de loin, je dois le dire, mon compositeur préféré, eh bien, c'est l'occasion pour Jerry Goldsmith de composer une de ses partitions orientalisantes, mais pas que, dont il a le secret, avec un crescendo au générique que je vous laisse apprécier sans plus attendre. Vous ai-je précisé que le film s'appelait en français « L'homme le plus dangereux du monde », je ne crois pas. En anglais, ça s'appelait « The Chairman », et la musique, donc, Jerry Goldsmith, 24 secondes. Thank you. l'art du crescendo, selon Jerry Goldsmith, pour un extrait de la bande réelle de Chairman, un film de Jack Lee Thompson tourné en 1969 avec Gregory Peck dans le rôle principal. Pour le reste, il y avait, je pense, des faux Chinois qui jouaient des vrais Chinois. On ne sait pas trop, c'est pas très important aussi. En tout cas, un film assez étonnant et qui nous donne donc l'occasion d'évoquer de façon fort extérieure et fort caricaturale la Chine. Et on va y rester, évidemment, puisqu'on va maintenant écouter un extrait de la bande originale d'une super production, c'est le moins qu'on puisse dire. Un film avec 19 000 figurants, 9 000 costumes, 300 techniciens, de 2h30 dans sa version initiale et de presque 4 heures dans sa version intégrale. Un film de Bernardo Bertolucci sorti en 1987 et intitulé « Le dernier empereur ». Vous l'avez sans doute reconnu, une évocation fastueuse et baroque, bien à la Bertolucci, de la vie pourtant authentique de Puyi, qui fut le dernier empereur de Chine et que le film suit depuis son ascension au trône en 1908 à l'âge de 3 ans jusqu'à l'année de sa mort à 62 ans, donc fort tôt, en 1967, fort tôt, mais après une vie bien remplie et que donc le film déploie avec faste. Un des premiers films, le premier film même, à avoir pu être tourné en Chine à une époque timide ouverture, en 1987 évidemment. Maintenant, il en est tout autrement, mais en tout cas le premier film occidental à avoir été tourné dans la Cité Interdite. Pour le reste, on n'est pas italien pour rien. Bertolucci s'était confié aux techniciens, aux magiciens même, peut-on les appeler, des studios de Cinecittà pour toutes les scènes en intérieur. Dans les rôles principaux, John Lone, John Chen et Peter O'Toole, sans doute le seul acteur étranger un peu connu de la distribution, ce qui n'empêcha pas le film de connaître un grand succès et d'être couronné par 9 Oscars, rien moins. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur film étranger, excusez du peu. La musique, elle est co-signée de 3 compositeurs, Kong Su, Ryushi Sakamoto, bien connu, et David Byrne, lui aussi bien connu. Du coup, et je le confesse, je ne saurais vous préciser duquel est l'extrait que nous allons écouter, mais c'est bien le dernier empereur et vous êtes bien dans 24 notes secondes. Thank you. Un large extrait de la bande originale du Dernier Empereur, un film de Bernardo Bertolucci tourné en 1987 et inspiré de la vie du dernier empereur de Chine, la Chine auquel nous consacrons cette émission de 24 notes secondes. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure la révolution culturelle commencée en 1966 et le film que nous allons évoquer maintenant, Le Dernier Loup, un film de Jean-Jacques Hano, eh bien, se passe justement à partir de 1967, la deuxième année de la révolution culturelle. Et pour le faire bref, eh bien, il s'agit d'une histoire d'amour entre un jeune étudiant et un loup, entre un jeune étudiant et les loups. Le tout est inspiré d'un roman qui a été édité en français, mais qui a été un triomphe en Chine. Ça s'appelle « Le totem du loup » de Yang Rong. Quant à Jean-Jacques Hano, eh bien, on lui fera d'ailleurs le reproche, et pourtant Le Dernier Loup est un film tout à fait estimable. Eh bien, il a sans doute essayé de reproduire le succès de L'Ours, autre grand film animalier avec un animal pour le moins spectaculaire. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est qu'il avait enfin eu le droit de revenir en Chine, alors qu'après avoir tourné 7 ans au Tibet en 1997, eh bien, il y avait été longtemps indésirable. Un film avec Brad Pitt, qui était plutôt critique vis-à-vis des autorités chinoises. De toute façon, dès qu'on parle du Tibet en Chine, il ne faut pas. La musique du Dernier Loup, eh bien, elle est signée d'un grand compositeur américain, prématurément décédé, et qui collabora avec Jean-Jacques Hano sur au moins un autre film, là comme ça de tête, le Stalingrad, qu'il tourna sur la bataille de Stalingrad. Il s'appelle James Horner, et donc il signe la bande originale du Dernier Loup, et le tout est dans 24 notes secondes. Le style aisément reconnaissable, il faut le reconnaître, de James Horner pour la bande originale du Dernier Loup, un film de Jean-Jacques Hano sorti en 2015, le dernier à ma connaissance, un film qui se passe en Chine, la Chine où se passe notre émission de 24 notes secondes ce jour. Et on va enchaîner tout de suite, alors dans un genre totalement différent et en revenant en arrière, pas de souci pour une émission de ce genre, pour écouter un extrait de la bande originale d'un Disney. Ben oui, le 54e long métrage d'animation de Disney qui s'appelle Mulan, sorti en 1998, co-signé par Tony Bancroft et Barry Cook, d'après la légende chinoise de Mulan, l'histoire d'une petite fille qui, pour défendre son clan, se déguise pas, en tout cas fait semblant d'être un garçon pour pouvoir combattre. Puisque évidemment, comme tout ça se passe dans les anciens temps, ben, c'est difficile d'être une fille et de combattre le tout. Et ma foi, sinon pas forcément le meilleur Disney, mais pas forcément le plus mauvais non plus. En tout cas pour qui a vu le chaudron magique. Et la musique surtout, eh bien, elle est signée de Jerry Goldsmith à nouveau, qui signe de ses plus belles partitions qui auraient dû lui valoir. Mais il y a beaucoup de partitions de Jerry Goldsmith qui auraient dû lui valoir l'Oscar. Celle-là fut nominée, mais ne l'emporta pas. Un extrait, donc Mulan, Jerry Goldsmith, 24 secondes. Un extrait de la partition adulte, on ne peut pas en dire autant, de toutes les partitions pour tous les films de Disney signées par Jerry Goldsmith pour Mulan, un film tourné en 1998. Une très belle partition en fait, Jerry Goldsmith qui a accompagné quelques dessins animés, pas beaucoup, les aborder comme n'importe quel autre film, mais sans condescendance aucune musicalement, ce qui se ressent dans la qualité l'intégralité de cette partition et on va se quitter en restant en Chine, en tout cas au moins dans l'esprit, puisque le film que nous allons évoquer maintenant a en fait été tourné en Espagne, un film tourné en 1963 par Nicolas Rey, intitulé « Les 55 jours de Pékin » et qui raconte tout simplement un extrait, je dirais, de l'histoire de la Chine en 1900, la révolte des Boxers, une horde de Chinois nationalistes, horde, c'est dans la petite fiche, hein, des Chinois nationalistes qui voulurent chasser les légations étrangères installées à Pékin et qui, évidemment, en profitaient pour de lucratifs et commerciaux et coloniaux échanges. Et ma foi, bien, au bout de 55 jours de lutte, dit ma petite fiche, c'est-à-dire 55 jours de siège de la part des Boxers, eh bien, une colonne internationale de secours vint au secours donc des assiégés et les sauva dans la bonne vieille tradition coloniale du début du XXe siècle. Les temps ont bien changé. Ma foi, le film, lui, était quand même plutôt bienvenu. Il faut dire que c'était la grande époque, 1963, des superproductions hollywoodiennes destinées à lutter contre l'influence néfaste, et elle l'est toujours, de la télévision, et que, ma foi, on mettait les grands moyens. Ce fut le cas, puisque on reconstitua la ville de Pékin, en tout cas une partie évidemment, sur 125 hectares, hors quelque part en Espagne, et qu'on recruta quelques grandes vedettes, Charlton Heston, Ava Gardner, David Niven, Flora Robson et quelques autres, pour un film qui était, ma foi, plutôt bienvenu, même si on peut évidemment rester suspicieux, ce jour comme à l'époque, sur son message, entre guillemets, message politique. La musique de ce film a été signée de Dimitri Tiomkin. Eh bien, je vous propose d'en écouter un large extrait dans 24 notes secondes. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. See you, bye bye.